Apocalypse, chapitre 6. Donc, au verset 9. Nous avions fait le chapitre 5 et une partie du chapitre 6 jusqu'à la fin du verset 8. Et maintenant, vendredi passé. Aujourd'hui, lundi 17 août 2020, nous continuons l'Apocalypse, chapitre 6, verset 9. Quand il ouvrit le cinquième sceau, donc l'archange, quand je regardais, je m'excuse, je regarde si c'est l'archange ou c'est l'agneau. Le chapitre 6, je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux, etc. Donc c'est l'agneau, c'est Christ qui ouvre les sceaux, excusez-moi. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Sous l'autel de Dieu dans le ciel. Parce qu'il y a un temple céleste dans le ciel. Il y a un trône de gloire et il y a un autel de gloire. Et tous ceux qui meurent pendant la tribulation sont sous l'autel. Il y a notamment, évidemment, beaucoup de juifs qui avaient adopté la religion mosaïque durant la période de tribulation, étaient retournés à la période mosaïque, qui possédaient un temple, sur le mont du temple, qui faisaient des sacrifices et qui avaient cru que l'Antichrist était un homme de paix, un homme favorable à eux, puis ensuite ils se sont rendus compte qu'il fallait cet homme était diabolique et décidait de se faire adorer par eux. Tout cela, et bien sûr, quand je dis l'imparfait, c'est parce que c'est comme si c'était fait. C'est ce qui attend une certaine partie de la population juive et aussi une certaine partie de la population humaine qui ne sont pas sauvés, qui ne sont pas en Christ et qui vont vivre pendant 7 ans, 3 ans et demi de séduction, où ils vont se faire bien avoir, tromper, séduire par toutes sortes de miracles et de prodiges, depuis 3 ans et demi d'horreur. Et donc il y en a qui sont immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Témoignage à qui ? À Jésus-Christ. À Jésus-Christ, les amis. C'est personne d'autre. C'est pas témoignage à Moïse. Allons à la fin du chapitre, à la fin du chapitre 7 et regardons. Verset 13, « Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils ? D'où sont-ils venus ?» Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour ça qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. » Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera, il conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. J'espère, chers amis, que vous avez compris que c'est un texte très important. Très très important. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. Donc, les personnes qui ont confessé Christ, qui ont cru en Christ, qui ont donné leur vie à Christ et qui ont été persécutés, malmenés et assassinés. Ce n'est pas un autre mot qu'il faut, c'est assassinés. Verset 14. Donc, en 7, verset 9, il s'agit aussi de ces mêmes personnes. Et regardons dans 6, verset 9. 7, verset 9. Il s'agit, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant, le salut à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Tout se tient, n'est-ce pas? Et dans le chapitre 6, il est clair, verset 9 à 21, on annonce, 6, verset 9 à, excusez-moi, à 11, on voit que ce sont des personnes qui ont donné leur vie à Christ et ils crient vers Dieu. Ils crient vers Dieu, verset 10, Jusqu'à quand, Maître Saint véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ? Donc, il y a des habitants de la terre, évidemment, au service de l'Antichrist, de Satan, et qui ne font pas de quartier. Vous savez très bien que tous les grands tyrans du monde ont toujours des bons collaborateurs, hein, très dévoués. Dans toute l'histoire des hommes, et bien dans les dernières périodes de l'humanité, lors des tribulations, il y aura des grands collaborateurs pour l'œuvre abominable de l'Antichrist. Dommage. C'est triste. Et nous voyons, chapitre 6, verset 11, « Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service, de leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux. » Les compagnons de service, le mot « compagnon » veut dire « celui qui fait le chemin avec ». Et de service, de quel service, s'il vous plaît, s'agit-il ? Il s'agit du service de l'Évangile. Annoncer la mort et la résurrection de Jésus-Christ, le pardon des péchés par le sang de Jésus et le don du Saint-Esprit par le Père et le Fils à ceux qui ont cru en Jésus. Ils sont repentis de leurs péchés. Donc, ils sont dans un service évangélique. C'est très important, les amis, de comprendre qu'il y a, durant les tribulations, des personnes entièrement dévouées à Christ. Chapeau! Chapeau, les amis. C'est une très bonne leçon pour nous. Il ne faut pas attendre de servir le Seigneur aujourd'hui. C'est tous les jours qu'on le sert. Parce que ceux-là vont servir dans les pires conditions. Ce sont donc des héros de la foi. Ce sont donc des témoins déjà pour nous à l'avance de ce que nous devons être aujourd'hui. Et ce n'est pas encore les tribulations pour nous. Donc au verset 12, Apocalypse chapitre 6, verset 12, « Je regardais quand il ouvrit le sixième sceau, donc Christ, il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier, secoué par un vent violent, jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. » Sans doute que toutes les maisons sont à terre, hein, à plat. Il n'y a plus rien qu'à de nu. N'est-ce pas ? Et il disait aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. » Donc nous voyons ici, et ça c'est quand même quelque chose d'extrêmement important, on parle souvent de la colère de Dieu, mais nous voyons qu'à un moment donné, dans la période de tribulation, la colère de l'agneau de Christ éclate sur les malfaisants. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Nous allons donc maintenant reprendre différents textes dans la Bible pour aller un peu plus en profondeur dans la compréhension de ces versets. Reprenons le verset 12. Quand il ouvrit le sixième sceau, il y eut un grand tremblement de terre, etc. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. Joël chapitre 3, versets 14 à 17. Joël. Dans l'Ancien Testament, Joël chapitre 3, versets 14 à 17. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche. Dans la vallée du jugement, le soleil et la lune s'obscurcissent, les étoiles retirent leur éclat. Lisez Ézéchiel 39, si vous voulez bien, c'est en relation avec ceci. Le soleil et la lune s'obscurcissent, les étoiles retirent leur éclat. De Sion, l'Éternel rugit, de Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résident à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte et les étrangers n'y passeront plus. Étrangers à quoi ? à la grâce de Christ. Et donc, c'est un texte extrêmement important. Il faut faire très attention. Et il y a un jugement, bien sûr, un jugement extrêmement important qui est exercé par Christ dans la vallée du jugement. La vallée du jugement, c'est quelque chose qu'on se demande de quoi il s'agit. Ah, nous attendons que Internet se recontacte. Tentative de reconnexion. Voilà, la connexion était un peu interrompue, excusez-moi. Si vous lisez Jérémie chapitre 25, je ne peux pas tout lire, comprenez bien, c'est impossible. Un enseignement d'une heure ne peut pas être un enseignement de 5 heures. Mais je lis dans le verset 29. « Voici, dans la ville sur laquelle mon nom est invoqué, je commence à faire du mal. Et vous, vous resterez impunis ? Vous ne resterez pas impunis, car j'appellerai le glaive sur tous les habitants de la terre, dit l'Éternel des armées. Et toi, tu leur prophétiseras toutes ces choses, et tu leur diras, l'Éternel rugira d'en haut, comme le lion de Juda. » C'est le nom de Jésus dans l'Apocalypse. L'Éternel rugira d'en haut, comme dans Joël, chapitre 3, verset 16. De sa demeure sainte, il fera retentir sa voix. Il rugira contre le lieu de sa résidence. Il poussera des cris comme ceux qui foulent au pressoir, contre tous les habitants de la terre. Le bruit parvient jusqu'à l'extrémité de la terre, car l'Éternel est en dispute avec les nations. Il entre en jugement contre toute chair. Il livre les méchants au glaive, dit l'Éternel. Chers amis, nous avons une relation entre ces passages du chapitre 25 de Jérémie et Joël chapitre 3, évidemment, et avec d'autres textes. Mais on ne peut pas les faire tous. J'évoque le sujet de la colère de l'agneau, qui a été annoncé par différents prophètes. Il y a d'autres prophètes, hein, au moins encore 4-5. Bon, maintenant, ce soleil qui devient... Je retourne dans l'Apocalypse, chapitre 6... Verset 12, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes à terre. Qu'est-ce qu'en dit Jésus lui-même? Regardons Matthieu, chapitre 24, verset 29. Matthieu, chapitre 24, verset 29. Je vais commencer chapitre 24 de Matthieu au verset 27. Car comme l'éclair part de l'Orient à ce monde jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Pensez à Ézéchiel 39. Tous les cadavres qu'il faut ramasser pendant 7 mois. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Génération de pécheurs, hein, qui dure depuis longtemps. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc Jésus a bien fait référence au même texte, et c'est le même Jésus qui parle dans Matthieu, chapitre 24, C'est le même Christ qui parle dans Apocalypse, chapitre 6, verset 12. Regardons dans Marc, chapitre 13, verset 24. Marc, chapitre 13. Marc, chapitre 13, versets 24 à 25. Dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. Nous sommes toujours dans une période de tribulation. Un chrétien qui vit normalement sa foi, mais réellement en obéissant par le Dieu, en se consacrant à Christ et à sa volonté, le chrétien ne connaîtra pas ça. Mais c'est quand même une mise en garde. Il faut avoir une certaine crainte, et il faut être sérieux dans sa vie chrétienne. Combien de gens se disent chrétiens? Et ce n'est qu'en surface. Nous sommes donc avertis. Dieu n'est pas un traître, il ne prend pas à l'improviste. Depuis tant de siècles, il a parlé. La parole aujourd'hui parle, dit encore ce que Christ veut nous dire. Donc Marc chapitre 13, verset 26, « On verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges, il rassemblera les élus des quatre vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. » Etc. Verset 29, « De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » Donc, toujours, les puissances des cieux sont ébranlées, toujours, il y a un phénomène cataclysmique, si on veut, oui, un ébranlement cosmique. C'est pas que Dieu veut détruire les planètes, c'est pas que Dieu veut détruire l'ordre qu'il a mis en route depuis si longtemps, pas du tout. C'est une mise à l'épreuve totale et finale pour les pécheurs, c'est différent. Et nous voyons dans Apocalypse chapitre 6 que tous les gens qui prétendent un pouvoir aujourd'hui, au verset 15, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches et puissants, etc., tout le monde se cache, tout le monde a peur, tout le monde est effrayé. Mes chers amis, est-ce que c'est pour ça qu'ils vont se convertir? Non. 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 C'est incroyable, mais c'est comme ça. Je ne retournais pas dans la Bible en Marc, mais je vous lis le verset, chapitre 13, verset 19. La détresse en ces jours-là sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde, que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Ah, nous y voilà. Marc 13, n'est-ce pas, 19, 1, 20. À cause des élus qu'il a choisis. Alors, il est évident que il y a des élus. Et cela, c'est clair, nous le voyons au chapitre 7 d'Apocalypse. Que nous dit Hébreux, chapitre 12, verset 29. Que nous dit Hébreux, chapitre 12, verset 29. Notre Dieu est aussi un feu dévorant. Notre Dieu est aussi un feu dévorant. Ok ? Notre Dieu est aussi un feu dévorant. Ce qui est bien sûr exprimé dans Joël, dans d'autres prophètes, dans Jérémie et dans l'Apocalypse. Le grand jour de sa colère viendra, et évidemment, ce n'est pas une colère sur ses enfants, sur ses disciples. Pourquoi ? Parce que si nous sommes... Et là, c'est un sujet extrêmement important, les amis. Si nous sommes chrétiens, que nous avons accepté le salut, nous avons accepté Christ, vraiment, solennellement, sincèrement, en s'étant repenti. Et puis qu'après, pour des raisons pas très nobles, on trahit. On mène une vie patachon. Et puis tout d'un coup, on est repris de remords, on est pris de tiraillements, d'angoisse. Ça peut être bénéfique si on revient à une véritable repentance. Je ne crois pas que Dieu retire son salut à un de ses enfants qui est désobéissant. Je ne crois pas. Dieu est bien plus fidèle et plus grand dans son amour et dans son élection. Et lorsqu'il a scellé quelqu'un, qu'il l'a fait enfant de Dieu, c'est pas pour le rôtir après. Je crois à la pérennité du salut. Je crois à la grandeur, à la fidélité, au trésor de bonté de Christ. Et comme dit Paul dans Romains chapitre 2, il ne nous est pas permis de condamner quelqu'un. Pourquoi ? Parce que alors nous méprisons, parmi les chrétiens, même les défaillants, nous méprisons les trésors de bonté, de magnanimité, de la puissance miséricordieuse de Dieu et de Christ. Moi je pense que durant ces périodes extrêmement difficiles, certains vont retourner à Christ. Certains vont demander pardon, vont se rendre compte du désastre, de leur infidélité. J'ai reçu un coup de téléphone il y a quelques jours et je dois recevoir cette personne. Ingénieur, hautement gradé à l'armée, qui a abandonné sa femme et ses enfants pour vivre avec une autre dame. Et qui me téléphone en me disant, je le connaissais bien, j'avais mis en garde. Il était pris de trop de vanité. Il lisait sa Bible à sa façon, la façon dont ça l'arrangeait. Et j'étais fatigué d'entendre toujours qu'il trouvait toujours une réponse, une riposte à tout ce que je lui disais. Je dis, Seigneur, il n'y a que toi qui peux le corriger. Eh bien, le jour est arrivé où le Seigneur va le corriger. Dans quelques jours, je le reçois. Et ce n'est pas moi qui le corrige, c'est Christ. Cet homme me dit, à deux ou trois reprises au téléphone, qu'il est terrifié et qu'il n'a plus la sécurité du salut. Mes amis, quand on n'a plus la sécurité du salut, quand on n'a plus l'assurance du salut, est-ce que ça veut dire qu'on a perdu le salut? Non, on a perdu le confort qu'on s'était mis dans la tête et dans le corps, le confort dans lequel on s'était installé, l'esprit de présomption dans lequel on s'était installé, pour se dire « je suis sauvé, donc je suis libre de tout ». Ce n'est pas un pasteur qui va me faire la leçon. Ce n'est pas des autres chrétiens qui me diront ce qu'il faut faire. À ce moment-là, cet homme qui avait vraiment aimé Christ, qui avait donné sa vie, ne peut plus un jour oser dire cela. Il va avoir la crainte totale. Mes amis, chez les chrétiens aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui se sont permis trop de choses. Et dans les temps qui viennent, avec le coronavirus et d'autres épreuves qui vont suivre, ils vont devoir revoir leur situation spirituelle. Si on leur prêche que le salut peut être perdu et qu'il n'y a pas de salut pour celui qui a péché, nous les condamnons d'office. Et nous croyons que Jésus ne peut rien pour ses enfants quand ils désobéissent. Ce que je veux vous dire, si nous sommes réellement devenus enfants de Dieu, parce que nous avons cru, nous sommes repentis, nous avons lu la Bible, nous avons aimé le Seigneur, puis tout d'un coup, on fait le malin. On monte sur un piédestal, on a une trop haute opinion de soi-même. On retombe dans la vanité. La chair a pris le dessus. Dans ce moment-là, est-ce que Christ est incapable de me ramener à lui? Est-ce qu'une brebis perdue, le berger ne peut pas aller la rechercher? Est-ce que la drachme perdue en dessous du meuble, perdue, que la dame retrouve, et puis quand elle l'a retrouvée, elle appelle tous ses amis, elle fait la fête. Est-ce que la drachme ne peut pas être retrouvée? La pièce précieuse ne peut pas être retrouvée? Celle qui était perdue? Mes chers amis, moi je crois que l'autorité de Christ sur quelqu'un qui a cru est totale. Et dans les périodes qui s'annoncent, c'est la maison de Dieu qui va être éprouvée d'abord, coronavirus et séquelles suivantes. Nous avons trop joué le Seigneur dans les églises. Nous avons trop joué avec ce que le Seigneur a demandé dans sa parole. Mais le Seigneur est bon. L'épreuve sera salutaire. L'épreuve sera positive. L'épreuve sera utile et à la gloire de Dieu. Je lis Hébreux chapitre 3, verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils de Dieu, sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Qu'est-ce qu'il a dit? Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin. Donc, à la fin, jusqu'à la fin, à un moment donné, quand on voit arriver la fin, on peut retourner à l'espérance et à la ferme confiance. On peut retourner. Le fils prodigue qui revient vers le père, et le père qui court vers lui, qui l'aime. Le fils prodigue, c'était pour beaucoup, c'est un athée qui se convertit, chers amis. Pour beaucoup, c'est un athée qui se convertit. Mais moi, je dis que les deux fils du père, que le père aime tous les deux, qui sont dans sa maison, et qui sont héritiers de sa maison, pour moi, c'est deux enfants de Dieu. Et tous les deux sont en désordre. Un par sa vanité et sa folie, et ses convoitises, sexistes et autres, hein, et l'autre par ses prétentions légalistes, monsieur moi-je, qui a une bonne conscience, qui semble être en ordre à ses propres yeux, juste à ses propres yeux. Personne n'est juste à ses propres yeux, même dans la maison de Dieu. Seul Christ est juste dans la maison de Dieu. Et nous avons tous à nous repentir. Tous. Et c'est pour ça que dans Hébreux, à la fin du premier siècle, à la même période de l'Apocalypse, Apollos, qui est un grand prédicateur, insiste sur l'autorité de la parole de Dieu. Et je continue à lire Hébreux chapitre 3, verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour d'une tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Je fus irrité contre génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare et n'ont pas connu mes voies. Je jurai dans mon colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, mes frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner de Dieu vivant. Quand cet homme qui, depuis quelques années, vit avec une autre femme et a abandonné sa femme et ses enfants, dit « J'ai l'angoisse de mon salut. Je ne sais plus où j'en suis. Est-ce que je peux te voir ?» Il s'est détourné, il avait un cœur mauvais. Mais regardez au verset 13 « Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Et si tout d'un coup son endurcissement disparaissait, avant le retour de Jésus, si tout d'un coup son endurcissement, sa vanité disparaissait, et si tout d'un coup dans le creuset de la souffrance, de l'humiliation, de la gravité de son péché, il retournait à Christ. Mes chers amis, aujourd'hui, ça c'est un cas de figure de millions de chrétiens qui vont devoir se mettre à genoux devant le Seigneur. On a trop joué avec le Seigneur, on est devenu des moi-jeux. Je continue à lire dans Hébreux, et c'était à la fin du premier siècle. C'est la même maladie spirituelle, hein, la présomption, l'esprit de présomption, qui n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Hein. Hébreux chapitre 3, verset 12. « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Exhortez-vous les uns les autres jusqu'au jour, au jour, aussi longtemps qu'on puisse dire « aujourd'hui ». C'est-à-dire chaque fois que je vis, au matin je me lève, je vis. Je peux dire aujourd'hui. Donc, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Il faut renoncer à l'incrédulité et à l'orgueil. Il faut retourner à Christ. Il est temps. Il est temps pour beaucoup de gens qui portent le nom de chrétien. Il est temps. Tout le chapitre 4 hein, traite du même problème. Et la fin du chapitre 4 nous dit ceci, que la parole de Dieu, verset 12, est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Si cet homme m'a téléphoné, c'est parce qu'il se sent mis à nu. S'il se sent mis à nu, c'est parce que Dieu est là. Si Dieu lui montre qu'il est nu, c'est qu'il veut l'habiller, qu'il veut récupérer son enfant qui s'est égaré. Et moi, pasteur, je peux dire, tu n'es pas un chrétien, tu as prouvé assez que tu n'étais pas un chrétien, va-t'en dans l'enfer, où je vais l'asséner avec des culpabilités et des condamnations. Je dois lui montrer le trône de grâce. Je dois lui montrer le trône de grâce. C'est tout ce que je peux faire. Je continue à lire Hébreux chapitre 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain prêtre sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain prêtre qui ne puisse compatir à nos faiblesses, et il y en a un paquet, hein. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Il est donc nécessaire, aujourd'hui, pour cet homme que je recevrai dans quelques jours, de recourir au trône de grâce pour qu'il soit secouru dans ses besoins. J'en ai fini avec ce texte et je retourne dans Apocalypse. Il est d'un grand bénéfice qu'il y ait des problèmes dans notre société. Il est d'un grand bénéfice qu'il y ait des problèmes de santé, des problèmes financiers, des problèmes sociaux, et que les chrétiens se réveillent, et que même d'autres, qui sont dans des régions, ils s'égarent, aillent à Christ. C'est d'un grand bénéfice. Pourquoi ? Il vaut mieux avoir peur de notre péché aujourd'hui que d'être sous le jugement de Christ lors de le jour de sa colère. Il vaut mieux demander pardon et revenir à Christ, ou y aller, que d'être tombé sous le jugement. Et donc, Apocalypse chapitre 6, il est clair, c'est un avertissement solennel pour des chrétiens qui, à la fin du premier siècle, comme dans Hébreux, se jouaient déjà de la sainteté de Dieu. Ils les prenaient pour des messieurs nombrils. Il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Qui peut subsister ? Personne, évidemment. J'ai fini avec le chapitre 6. Mais j'ai dit ce que je pensais. Je veux être pratique, très pratique. Ce texte est là pour nous réveiller. Nous n'avons normalement pas de place dans les tribulations en tant que chrétiens. Mais si nous y allons, alors que nous avons entendu ces avertissements-là, ben ma foi, il faudra en subir les conséquences. Soyons responsables devant la parole de Dieu. Chapitre 7. Je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Vous savez, de manière scientifique, quand on ne ressent aucun vent, l'air, quand même, sur la terre, bouge à 16 km/h. Et oui, pourquoi? Même si on ne ressent rien, pourquoi? Parce qu'on asphyxierait. Dans les villes, tout le monde mourrait. Tous ceux qui sont inondés de gaz carbonique, etc., ou même dans une maison, si on est nombreux dans une maison, on étoufferait, on finirait par étouffer avec notre CO2. Et il est évident que Dieu a pris des précautions pour nous sauvegarder, nous garder dans la vie. Lorsque même nous croyons qu'il n'y a pas de vent, l'air bouge à 16 km/h. Et oui, je pense que Dieu est grand. Et qu'il a bien fait attention à nous. Bon ou mauvais? Juste ou injuste? Verset 2. Je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant. Le soleil levant, c'est lequel? C'est l'ouest ou c'est l'est? C'est l'est, c'est l'orient. Et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Donc, les serviteurs de Dieu durant les tribulations qui vont être choisis ici sont évidemment 12 000 de chaque tribu d'Israël. Ça ne veut pas dire, il n'est pas exclu qu'il y en ait d'autres derrière eux. Et ça, vous voyez à partir du verset 9. Chapitre 7, verset 9. Donc, au chapitre 7, il y a une grande grâce qui est accordée pour le peuple d'Israël, en premier, puis ensuite les autres, pour, durant ces périodes de tribulation où ils se sont plongés à cause de leur endurcissement, il y a une grâce d'être trouvé juste par une décision souveraine de Dieu. Ça s'appelle la grâce. Prenez le cas de Paul sur un chemin de Damas. Il ne mérite rien. Ça s'appelle la grâce. Combien de grands pécheurs sont devenus des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, mais c'était des tordus à l'extrême. Par grâce, ils ont été arrêtés et transformés. Et donc, il y a des transformations souveraines et totales qui se font. Ils sont marqués sur le front. Et il y en a 12 000 de chaque tribu. Vous lirez ces versets, du verset 4 au verset 8. Ensuite, au verset 9, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, toute tribu, tout peuple, toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards, et des quatre êtres vivants, ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Alors, on pourrait dire, mais vous savez, pasteur, ce texte-là, ben on a le même. On a le même au chapitre 5. C'est une copie, c'est une redite. Au chapitre 5, n'est-ce pas? Vous l'avez, oui, du verset 8 jusqu'à la fin. Ce qui est au ciel, au chapitre 5, et ce qui se passe au chapitre 7, ce n'est pas encore tout à fait la même chose, même s'il y a des connexions divines. Par la grâce. Ici, dans le chapitre 7, verset 9, c'est une grande foule qui se prosterne devant la face devant le trône, mais parce qu'ils ont perdu leur vie, durant les tribulations. Verset 13, l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robe blanche, qui sont-ils ? D'où sont-ils venus ?» Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. » Donc, ils ont confessé Christ. Ça leur a coûté très cher. Aux 144 000 et à tous les autres qui sont derrière, peut-être en plus grand nombre que 144 000, évidemment. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus de soif. Le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur. L'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Apocalypse 21, verset 6. Dans la Jérusalem céleste qui descend sur cette terre, hein, c'est le chapitre 21, vous lisez à partir du verset 1 jusqu'au verset 8, mais dans cette section, vous allez voir, il y a des personnes qui reçoivent un cadeau formidable. Verset 6, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, à celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu, il sera mon fils. Ok. Quand on relit Apocalypse chapitre 7, verset 17, on peut faire aussi référence à des eaux de la vie dont Jésus a déjà parlé. Et cela, nous le trouvons dans Jean chapitre 4, verset 14. Jean, chapitre 4, verset 14. Courage. C'est pas toujours facile, la Bible. Courage. Courage. C'est un trésor. Même s'il faut transpirer, même s'il faut essayer de faire des efforts pour comprendre. C'est un immense trésor qui nous est révélé dans ses paroles. Jean, chapitre 4, verset 14. Celui qui boira de l'eau et que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La Samaritaine lui dit, « Donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser. » Évidemment, elle n'avait pas tout à fait compris, mais ça va venir après. Il faut du temps, c'est comme pour nous. Prenons Jean, chapitre 7, verset 37. Évangile de Jean, chapitre 7, verset 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié, c'est-à-dire crucifié et ressuscité. C'est un cadeau formidable que Dieu vient de nous donner. C'est la vie éternelle. Un cadeau d'une valeur inestimable. Ésaïe, chapitre 58, verset 11. Ésaïe, chapitre 58, verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasira ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. « Ésaïe, chapitre 58, verset 11. Donc, ce n'est pas simplement un thème littéraire, figuratif, allégorique. C'est réellement une composante du salut, ici, qui est affirmée. Et dans Apocalypse, chapitre 7, nous avons l'assurance d'un salut qui est donné, même à des personnes, dans la période de tribulation. Et la grâce de Dieu est toujours agissante, rien ne l'arrête. L'Antichrist ne l'arrête pas. Et aujourd'hui, mes amis, dans cette période de délabrement spirituel européen et autre part, Dieu n'arrête pas sa grâce. Dieu intervient. Aujourd'hui, sa parole vous dit, ne t'endurcis pas, ne te laisse pas séduire par ton péché, écoute-moi. Alors je vous invite, chers frères, à dire ceci au Seigneur ce soir. Seigneur, je suis ta servante, je suis ton serviteur. Je voudrais t'écouter. Alors lisez la Bible. Mais dites cela avant. Et puis après, quand vous endormez, Seigneur, j'ai écouté. Maintenant, fais-moi comprendre, même si je t'aime. Et que demain, j'ai bien compris. Car c'est par l'Esprit Saint que l'on comprend. Notre intelligence est trop petite pour comprendre l'intelligence de Dieu. Mais l'Esprit Saint est infiniment intelligent et puissant pour éclairer notre esprit. Durant la nuit, durant nos rêves, nos pensées peuvent être changées le lendemain matin. Gloire soit à Jésus, gloire soit à sa parole. Et préparons-nous, les temps sont courts, avant ces vilaines tribulations. Je ne souhaite à vous, aucune de vous, de les connaître. Il vaut mieux être avec le Seigneur et mis à part. Mercredi, nous lirons le chapitre 8. Ok, à 18h. Ça devient un petit peu corsé. Mais voilà, c'est difficile. Je ne peux pas dire que j'ai tout compris. C'est corsé. Là, les chapitres qui suivent, c'est assez difficile. Je ferai mon possible, mais il y a des livres. Je vous donnerai des références de livres pour ceux qui veulent. À un moment donné, je présenterai quelques livres devant l'écran et je citerai les noms, les maisons d'édition, etc. Que Dieu vous bénisse. Amen.